you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Pascaline Potdevin, Olivier Lam et Christophe Comte pour parler ensemble de Confession de Philippe Catherine, Living Meaning the Swans, Sexorcism de Brooke Candy, et il y aura un coup de cœur d'Olivier Lam pour To Magnetize Money and Catch a Roving Eye de Jim O'Rourke. Et nous ouvrons cette dispute avec Confession, le 11e album studio de Philippe Catherine sorti chez Wagram, populaire depuis Luxor, j'adore, encore plus populaire depuis Le Grand Bain et son César. Philippe Catherine continue à faire des disques comme personne d'autre que lui, après le très intimiste et assez bouleversant Le Film. Il revient avec un tas d'invités dans ce nouvel opus. On écoute l'un des morceaux qui s'intitule « Malaise ».
Maman,
maman.
Maman,
elle me recoiffe tout le temps. Elle fait ça devant des gens. Ils trouvent ça très touchant. Ça me met mal à l'aise.
Maman,
elle répond gentiment. À ma place et bien avant. Maintenant, quand je parle aux gens, ça me met mal à l'aise. Ça me rappelle quand on était sous les douches. Tout ce qu'on était, on était nus sous les douches. Ça me met mal à l'aise.
Stop.
Comme quand j'ai embrassé Dorothée sur la bouche. Elle veut un appartement. Elle voudrait des enfants. Et recevoir des gens, ça me met mal à l'aise. Montrer l'ameublement, le trop et le manquement. Quand je reçois des gens, ça me met mal à l'aise. Ça me rappelle quand je me pose la question du rôle que j'aurais joué à la Libération. Ça me met mal à l'aise.
Stop.
Comme quand j'ai retrouvé Dorothée dans les dunes. J'étais son amant. On avait 8 ans. Le nom des enfants, Michel, Eric ou Gaëtan. J'étais son amant. Moi j'avais 8 ans. Je la voyais maman. Quand j'y repense, c'est effrayant. Si vous n'étiez pas vous, je ne serais pas moi. Est-ce que vous seriez moi si j'étais vous?
Vous êtes super, super dans vos maisons.
Vous, mais
dans vos avions.
Vous
êtes super,
êtes super.
Vous êtes superbe,
superbe
dans vos métros,
dans
vos ordi,
vos ordi.
Vous êtes superbe,
vous êtes superbe.
Ça me met mal à l'aise.
Simplement, quand je me vois maintenant, maintenant quand je suis à l'aise, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise.
Stop.
Stop. Malaise, un des morceaux de ce disque de Philippe Catherine qui s'intitule Confession. Au pluriel, un premier rapide tour de table sur ce nouvel album. Olivier Lam.
Rasons le Louvre.
Christophe Comte.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Pascaline Potvin.
L'album qui ouvre nos chakras.
Bien. On va développer tout ça. Olivier Lam, Rasons le Louvre.
Oui, non, c'est un extrait d'une chanson qui s'appelle Raphaël 1965-1989, qui est un hommage à quelqu'un qui était un ami d'études de Philippe Catherine. C'est pas à préciser non plus. Enfin, c'est pas clair quand on écoute la chanson, mais je trouve que dans cette chanson, il raconte en fait ses propos que lui proférait cet ami quand il était très jeune, en formation intellectuelle et morale, et à l'époque ça le choquait. Et il raconte comment avec le temps, en fait, il trouve que c'est des propos qui sont tout à fait recevables aujourd'hui. Je trouve ça intéressant parce que c'est un appel à une sorte d'insurrection intellectuelle, voire guerrière. Enfin, culturel, qui ressemble beaucoup à ce disque et qui raconte, je pense, le cheminement de Philippe Catherine. C'est pas un disque qu'il aurait pu faire avant. C'est un disque très audacieux et très violent, très drôle aussi, mais très émouvant, mais avant tout violent. Et comme Philippe Catherine est quelqu'un d'assez drôle et musicalement assez doux, on le mesure pas forcément avant d'y passer du temps dans ce disque. Et comme c'est un disque long, voilà, c'est un disque très complexe, c'est un disque intensément psychanalytique, chaotique et évidemment bourré d'inventions musicales formidables, aussi de choses un peu plus musicalement un peu plus gaguesque, moi je trouve moins intéressante, mais toujours toujours très audacieux et qui procure c'est vraiment un carambolage mental et qui procure une expérience d'écoute qui est pas forcément très très facile à résumer, mais extrêmement intense, voilà, c'est ça, je voulais revenir à cette idée d'intensité. Alors, on peut s'en rendre compte dès le premier morceau, hein, qui est une sorte d'opéra, voilà, c'est un disque qui, comme il raconte, il a ouvert grand les écoutilles, les fenêtres, il a laissé le monde rentrer, et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Catherine est sans doute le seul artiste, en France en tout cas, qui pouvait accoucher d'un tel objet, et d'un objet aussi ambitieux, justement en laissant rentrer le chaos de l'actualité.
Christophe Comte.
J'aimerais lire un petit bout de ce qu'a écrit Dominica sur Catherine, parce qu'il a fait la biographie de Catherine. Oui. Et il dit « C'est aussi touchant que réjouissant et excitant comme rarement un disque de nos jours. Sorte de No Comprendo, la pierre angulaire discographique des Rita Mitsouko contemporains, à rendre jaloux tous ses congénères chantants qui seraient bien inspirés de passer aussi à Confesse. » Moi le premier,
moi
comme les autres, pardon. Et ça c'est intéressant parce que ils ont démarré ensemble, Dominica et Catherine, ils sont très proches, mais aujourd'hui Philippe Catherine est un artiste de cette génération du début des années 90 qui est en plein feu de l'actualité, alors que tous les autres finalement sont dans leur petit couloir, arrivent à vivoter plus ou moins bien, mais Philippe Catherine lui a explosé. Pourquoi ? Parce que il avait dans ses gènes quelque chose de très différent des autres, qui était cette capacité à faire venir à lui des gens qui étaient très différents de lui déjà, et puis d'aller vers eux et de fonctionner tout le temps en ping-pong, tout le temps de manière égalitaire, pas faire venir des featuring pour frimer, mais faire venir des featuring à bon escient à chaque fois en les choisissant, parfois pour des interventions qui sont quand même assez anecdotique, mais dans ce disque, donc, qui est vraiment une somme quand même de tout ce qu'il sait faire, il y a comme ça une première couche avec beaucoup de gens, alors de Gérard Depardieu, aller assez doux en passant par Angèle et Dominica par exemple.
Et Oxmo Puccino
et plein d'autres gens,
l'homme pâle.
Bon, c'est un catalogue comme ça de gens, on se dit bon, il est allé piocher à droite à gauche des gens qui marchent bien, des potes à lui et tout ça, mais en fait, j'ai l'impression que cette confession, elle est un peu confuse. Il y a une confusion parce qu'il y a un message quand même un peu sous-entendu dans ce disque de Catherine. Je m'avance peut-être un peu,
mais
dans le morceau que citait Olivier, qui s'appelle Raphaël 1965-1989, sur ce jeune homme qui s'est suicidé, on apprend quand même qu'il lui a envoyé une lettre avec des cœurs. Et il y a beaucoup quand même d'allusions dans ce disque sur l'homosexualité refoulée. de Philippe Catherine, ou en tout cas ce qu'il aimerait, voilà, ce qu'il pense un petit peu de cette, de sa, disons, son hétérosexualité anormale, j'ai l'impression. Et donc dans le morceau 88%, je ne sais plus, ouais, avec l'homme pâle, que j'aime pas du tout d'ailleurs, mais ouais, bon, c'est explicitement dit, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouvre la nu, évidemment, puisqu'il enlève les S à tous les... Et il y a quelque chose comme ça dans cette confession. Vous savez, il y a cette pochette alternative où il a son nez qui, comme Pinocchio, là, qui est son sexe. Donc il y a quelque chose quand même, j'ai l'impression, que Philippe Catherine voulait exprimer dans ce disque. Et pour pas l'exprimer frontalement, comme dans le film où il rendait hommage à son père, il l'a fait dans un amas de choses très confuses, parce qu'on passe de bébé panda, je crois que ça fait allusion à Brigitte Macron, je crois. Enfin, il y a tout un tas de choses. Enfin, il y a aussi Emmanuel Macron qui prend, ouais, les gifles. À des moments, on a l'impression que les morceaux ont été commencés sur un mode, et puis qu'il savait pas trop où il allait, et puis débouche sur autre chose. Notamment ce morceau qui s'appelle Aimez-moi, où il commence à parler à ses enfants, et puis après il parle des gens qu'on aime après leur disparition. Enfin, ce qui est un très beau morceau d'ailleurs. Il y a comme ça à chaque fois.
Confession masquée?
Une confession masquée, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans ce message-là, qu'on retrouve à plusieurs endroits de l'album, et notamment dans ce titre qui est vraiment très poignant, qui est assez brut. Et cette lettre avec des cœurs, tout ce que ce garçon lui a dit, on a l'impression vraiment que ça l'a touché. Et moi, je pense que Philippe Catherine avait envie, voilà, d'exprimer cette part de féminité en lui sur ce disque-là. Et peut-être, pour pas le faire directement, il l'a fait en la noyant dans beaucoup d'autres choses. Passionnante par ailleurs.
Pascaline Potvin, sur ce disque Confession.
Moi, je rejoins mes collègues sur le fait que c'est un album extrêmement riche, extrêmement intense, extrêmement varié. Pour moi, c'est un album qui est passionnant dans son va-et-vient entre l'ouvert et l'intime, en fait. Il y a des choses très ouvertes, donc on l'a dit, il s'est ouvert aussi sur des nouveaux sons, un petit peu, lui-même dit qu'il a été très inspiré par le hip-hop, il écoute Kanye West, il écoute Tyler, The Creator, il fait rentrer l'homme pâle, ces gens-là. Tous ces featuring, effectivement, qui sont aussi un signe d'ouverture, pardon. Il parle de politique, il parle du monde dans lequel on vit. Je crois que c'est dans Libération, Olivier, que vous disiez qu'il en parle quasiment en direct. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. Il parle de la mort de Johnny, qui est quasiment, c'est là, quoi, de Emmanuel Macron. Et en même temps, il y a tous ces titres très intimes. Donc effectivement, celui dont parlait Christophe, le très beau Aimez-moi, où effectivement, il commence à parler de ses enfants. Il se met dans la position du père. Qu'est-ce qu'il va livrer? La culpabilité de pas être forcément à la hauteur. Il pense aussi qui est décédé il n'y a pas longtemps, dont il avait parlé dans le film, qui était donc un disque de deuil. Et ensuite, parce que Catherine reste Catherine, il parle de Johnny, qui est un peu genre comme ça, une espèce de figure paternelle. Il envoie une petite pique à Johnny, et il termine sur Aimez-moi, et quelque chose de très, une supplique comme ça, très personnelle, très intime. Il y a aussi toutes ces allusions au sexe. Non, voilà, Christophe, c'est un album très cru, ça parle de bites, ça parle de cul, sans embâche, avec beaucoup d'humour. Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose de, un message de, ben, ouvrez-vous, la masculinité, on a un peu envie de la réinventer, la redéfinir. Quand il dit ouvre la nuit, je pense que c'est il nous enjoint à tous de nous détendre un petit peu sur tout, je pense. Enfin, prenons la chose avec plus de légèreté. Mais il y a aussi quelque chose de très intime. Moi, en interview, puisque je l'ai rencontré, il m'a dit, c'est parce que c'est les fantasmes qui changent quand on est un homme de 50 ans. On pratique peut-être différemment et ça passe plus par le mental. On y pense différemment. Bref, et tout ce va-et-vient entre l'extérieur, le monde qui nous entoure et l'intime, c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été fondamental chez Philippe Catherine. Et ce lien entre les deux, ce va-et-vient qui est lié par la poésie, me l'a toujours rendu passionnant et me le rend là encore passionnant. Il me parle de moi, il me parle des gens avec qui je vis et il me parle du monde dans lequel je vis. Et il me réconcilie avec ce monde. Et vraiment, par son humour, par sa poésie, par son ouverture, par son truc complètement décomplexé, son humilité aussi, le fait justement de s'ouvrir à plein de choses, d'inviter une Angèle, un homme pâle, comme un Gérard Depardieu, je trouve ça hyper libérateur. Et il y a une phrase qui m'a... Bon, il y a beaucoup de phrases qui m'ont frappée dans ce disque, mais une à la fin que dit Léa Seydoux en lui parlant, qui dit « Quand je te vois, quelque chose me dit, le monde va bien ». Ça m'a rappelé une chanson une de ses chansons à lui, « Jésus-Christ, mon amour », qui est une chanson que j'adore, sur l'album « Les créatures » en 99, où il dit « Je me sens dans le monde ». Bah, c'est ce va-et-vient. « Je me sens dans le monde. Quand je te vois, quelque chose me dit, le monde va bien ». C'est l'effet que me fait Philippe Catherine depuis toujours. Et c'est l'effet que me fait encore plus ce disque, parce qu'il parle du monde. Voilà, il nous réconcilie avec le monde. Et rien que pour ça, bravo pour ce disque, pour cette confession.
Oui, puis c'est vrai que c'est aussi chez Philippe Catherine, il le fait depuis un certain temps. Les albums se suivent et ne se ressemblent pas. Et donc forcément, après le film qui était très programmatique, quasi conceptuel dans sa façon d'être élaboré, pensé, produit, là on a quand même quelque chose qui est... qui part apparemment dans tous les sens, en tout cas musicalement et même au niveau de la production. C'est vrai que c'est quand même difficile de s'y retrouver, de faire son chemin. Donc c'est pour ça que je pense qu'il avance, il avance masqué. Mais alors peut-être que pour reprendre ce que vous disiez, Pascaline Potvin, c'est il y a Stéphane Hessel qui avait fait Indignez-vous, ça avait marché. Le c'est Détendez-vous. Peut-être ouais. C'est ça le message aussi de Philippe Catherine. Christophe Comte.
Oui, bah, depuis toujours, c'est quand même un peu son message. Parce que Philippe Catherine a quand même eu, par rapport à beaucoup de gens de cette génération, un gros avantage sur les autres, c'est qu'il a un sens de l'absurde et un sens en interview. On sait très bien que si on est face à lui, on va obtenir des choses que le voisin d'après n'aura pas, parce qu'il est dans une improvisation totale. En ça, il est assez proche de Brigitte Fontaine. Ils sont tous les deux un peu, voilà, c'est un peu sa mère spirituelle. Il y a quelque chose chez lui, même dans la découverte musicale, dans la manière de faire s'entrechoquer des gens, des mondes, des musiques, des sons, il est quand même unique et génial. Et c'est vrai que lorsqu'on le voit 5 minutes à la télé, on va être mort de rire à plusieurs reprises. Mais je pense qu'on ne sait pas tellement quel est si on n'écoute pas vraiment ces disques. Moi, je me souviens avoir écouté très attentivement, après l'avoir écouté longtemps, Surface, Robot après tout, son disque. C'est un disque extraordinaire en termes de production, qui est incroyable lorsqu'on l'écoute attentivement. Et pourtant, en Surface, il est tellement facile.
Une richesse. Moi, je ne l'ai toujours pas épuisé.
Et je pense que ce qu'il a fait là, ce qu'il a voulu faire, d'ailleurs, il a retravaillé avec Renaud Létang, et je pense qu'il y avait ce désir de refaire un disque comme ça, qui serait avec 1000 couches. Qu'on arriverait peut-être à éplucher petit à petit, mais en tout cas, c'est vraiment pas un disque qu'il faut écouter comme ça de loin.
Olivier Lame.
Oui, moi, je j'interprète vraiment ce disque-là comme peut-être pas la troisième, parce qu'il y en aura peut-être après, mais enfin, je le vois vraiment en regard d'une trilogie dans laquelle il y aurait Robot après tout. Et ensuite, son album Philippe ou Philippe Catherine, celui où, qui était un album. Et, parce que je pense que c'est ces trois disques les plus politiques, c'est aussi ceux où il travaille le plus précisément la langue et le sens dans un contexte très politique. C'est-à-dire, Robot après tout était un disque vraiment sur l'automatisation du sens et le détournement du sens par la répétition. Philippe Catherine, c'était l'atomisation. Et celui-là, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le brouhaha. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un disque qui est extrêmement précis dans son écriture, mais on sent toujours que la réalité du sens est derrière. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toutes ces litanies très lacaniennes où il répète des choses jusqu'à faire devenir un sens caché. Voilà, ce morceau justement où la nonne, suite à une discussion avec des amis, tous les noms possibles pour sa bite, on peut le dire autrement, et qui finit par arriver à une histoire de, j'ai presque pas envie de spoiler cette chanson.
Divulgation pas.
Voilà, pour arriver, évidemment, à Héros, Thanatos, etc. Et donc, il y a quelque chose de, détendez-vous, mais enfin, la mort est là, la guerre est là, tout proche. Il y a quand même
quelque chose. Il faut absolument le savoir et il faut quand même absolument se détendre, justement. Parce que la mort est là et parce que la guerre est là.
Sans doute.
Non?
Bah, c'est ce qu'il dit. Aimez-moi pendant que je suis vivant. Enfin, c'est.
Aimons-nous vivants.
Oui, je n'osais pas y aller jusque-là, mais vous l'avez fait. Le voilà.
Attendons pas que la mort nous donne du talent.
Non, mais c'est ça. Il a cette espèce de truc presque. L'absurde vire au métaphysique tellement rapidement. Quand il dit, je n'aime pas penser que j'ai sept trous dans la tête. Mais c'est effrayant de penser ça. C'est un gouffre de.
Regardez-nous.
Mais c'est vrai. Et à la fois, c'est drôle et c'est poétique. Et en même temps, c'est complètement flippant. Et moi, tous ces degrés me réjouissent.
Tant qu'il y a sept trous, tout va bien. C'est après que ça se complique. Confession de Philippe Catherine est sortie chez Wagram. Alors, les concerts commencent le 29 novembre à La Rochelle. Jusqu'au 20 décembre à Rennes, tout est complet. Donc, c'est peut-être la peine. Ah non, au CEPAC, au Silo à Marseille, il resterait des places. Non, tout le reste affiche complet. Ça se poursuivra évidemment en janvier de Bruxelles à Perpignan, passant par Saint-Lô, Saint-Étienne, Poitiers et puis un Zénith à Paris. Peut-être un deuxième, non ? 28 avril 2020 pour Philippe Catherine. On va poursuivre cette émission en parlant de Swans, de Brooke Candy et de Jim O'Rourke.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
On poursuit cette émission avec Living Meaning, des Swans, So Young Gone, c'est le 15e album du groupe new-yorkais qui avait été mis en sommeil entre 97 et 2010 après 15 ans d'existence. Depuis, Michael Gerard a reformé le groupe et s'est séparé de tous les musiciens qui étaient présents entre 2000 et 2017 pour renouveler totalement le line-up, comme on dit en bon français, c'est-à-dire les musiciens qui l'entourent. Donc des musiciens sélectionnés, je cite Gerard, pour leur qualité musicale autant que leur personnalité. Pour quel résultat? On va en parler dans un instant, après avoir écouté un des morceaux de l'album. Alors, choisi, il faut le dire quand même, en raison de sa durée. Aucun morceau ne faisant moins de 5 minutes, 4 en faisant plus de 10. Donc j'ai choisi Amnesia, qui dure quand même 5 minutes 50, et Une idée des paroles, traduite par Boris Pinault, que l'on remercie. Non, mais pour donner une idée de ce qui est dit, le soleil est un œil corrosif, les plaisirs intérieurs nous rongent, il y a un trou sur ta peau blanche et fine, nous ne serons plus jamais purs, nos mains sont deux griffes brisées, nous grattons le sol pendant des heures, j'y enfouis ce son pour prendre le contrôle de ce sentiment. Amnésie.
The sun is an acid eye. We're corroded with pleasure inside. There's a hole in your thin white skin. No, we'll never be clean again. Our hands are too broken. Claws. We scrape at the ground for hours. I buried this sound in the floor to gain control of this feeling. Rise today. will stay where you lay. The oil is black and it's thick, and sex is a void filled with plastic. The president's mouth is a whore. When there's murder, the audience roars. There's no room left here for the strong, and everything human's necessarily wrong.
Voilà, Amnesia, l'un des morceaux les plus courts de l'album de Swans. Est-ce qu'il est représentatif? On va en parler. En tout cas, premier sentiment sur ce Swans, nouvelle formule. Christophe Comte.
Tellurique, c'est un mot qui est en ce moment d'actualité, malheureusement.
Ouais, ouais.
Faut pas l'écouter si vous êtes sur une région sismique, hein, parce que ça peut déclencher des choses.
Pascaline Potvin.
Une espèce de grand-messe, comme toutes les grand-messes, parfois transcendante, parfois un petit peu longue.
Et Olivier Lam.
Classe.
Ouais, c'est classe. Tellurique, donc je ne sais pas combien de lettres ça fait, mais c'est le mot choisi par Christophe Comte.
Oui, alors à l'échelle de ce que Swans a livré depuis le début de la décennie, je dirais que c'est presque du easy listening, hein, celui-là. Vous avez entendu là le morceau.
Oui, il y a un couplet, un refrain.
Il y a des moments, le début très calme, ouais. Instrumental, ça progresse doucement, il y a une sorte de progression lancinante. Et très puissante, qui est vraiment l'esthétique même de Michael Gira, de Swans, qui est de me faire monter comme ça quelque chose, on ne sait pas trop si c'est les ténèbres, c'est assez flippant. Au bout d'un moment, ça devient, ça reprend sa forme processionnelle, qui est assez classique chez Swans, avec ce son, absolument incroyable, qui est un enchevêtrement de choses assez dingues. Que dire de Swans pour les gens qui ont jamais écouté ça, qu'il faut y aller mollo, hein. C'est pas le disque qu'on écoutera au bord de la piscine cet été, mais comme l'été est loin, on peut profiter.
Oui, très très loin.
Voilà,
même.
On peut profiter des frimas pour se laisser envelopper par ce son, qui est vraiment encore une fois assez unique. Quoique sur ce disque-là, je lui trouve quand même beaucoup de ressemblances avec le Nick Cave qui est sorti récemment. Ouais. Il y a quelque chose, alors c'est Nick Cave peut-être qui s'est rapproché de Michael Gira, mais il y a quelque chose comme ça dans le côté très lancinant, très, et dans ses textes aussi.
La façon de poser la voix.
Peut-être le fait que là, Michael Gira revient un petit peu plus à ce qu'il faisait avec Angels of Light, qui était le groupe qu'il avait fait entre les deux versions de Swans, qui est un groupe qui s'est formé en 82, je crois, donc il y a un très vieux groupe, mais qui a commencé sur un mode plus industriel, qui petit à petit est devenu un peu plus folk rock, je sais pas comment appeler ça, mais bon. En tout cas, il y a eu plusieurs périodes, dont la deuxième depuis les années 2010, où ils ont enchaîné plusieurs albums, celui-là c'est le cinquième, je crois. Entre les deux, il y a eu ce groupe, Angels of Light, où il y avait quelque chose d'un peu plus folk anglais tordu, mais qu'on retrouve là, je trouve, dans quelques morceaux de l'album.
Pascaline Potvin sur ce nouvel album des Swans.
Oui, effectivement, moi, comme Christophe l'a dit, Swans, c'est quand même une longue histoire. C'est le 15e album. Je crois qu'on entre en Swans comme on entre en religion un petit peu. Enfin, pour moi, c'est l'effet que ça me fait. Et à la fois, il y a le public qui est adepte ou pas, qui arrive à rentrer là-dedans. Et aussi tous les gens qui gravitent autour. Effectivement, il avait un line-up. Il avait un groupe autour de lui qu'il a dissous, qu'il a reformé. Là, c'est un album où il retrouve certains habitués, certains fidèles et de nouveaux convertis parce que je les appellerais vraiment comme ça. En fait, il a travaillé avec des musiciens dont il dit lui-même qu'il a choisi selon ce que lui-même sent être le mieux, selon leur personnalité, pour l'atmosphère dans laquelle il aimerait voir ses chansons s'incarner. Et je trouve que ça donne de très belles choses. Effectivement, il y a une chanson qui s'appelle Living Meaning avec un groupe de jazz expérimental australien qui s'appelle The Next. Le titre n'est pas du tout expérimental. Pour le coup, ça, je trouve un des plus lisibles, avec une espèce de boucle de basse répétitive. Moi, ça me donne l'impression de voir un corps respirer comme ça. C'est à la fois très lourd et très délicat. Il y a les sœurs Von Oslof Anna, donc qui est une Suédoise qui fait une espèce de musique comme ça gothique, un cantadoir, qui est chanteuse et organiste, qui avait sorti un album Dead Magic il y a 2 ans que moi j'adore, je trouve absolument sublime, mais comme ça très solennel, très, elle tourne avec Seno, je crois, avec sa sœur Maria, elle donne comme ça des chœurs mi sorcière, mi enfant. Je me demande si c'est pas elle qu'on entend dans Amnésia, la rire. Et aussi, comme le disait Christophe, effectivement, il y a des titres assez lisibles. Il y a un des titres qui a été le single, je crois, de l'album, It's Coming, It's Real, construit sur un rythme ternaire, comme ça, avec une montée. Quand il y a des repères comme ça, quand on est, j'avoue, moi, je suis pas une adepte de cette religion Swans, c'est très beau. Quand on l'est pas, ça donne quand même des titres très très longs, très processionnels. C'est très beau, mais moi ça me perd. Et je pense que on peut ne pas être adepte d'une religion et en admirer les rituels, voire même se laisser transporter. Mais aussi, on peut aussi parfois être complètement laissé de côté, comme une langue qu'on parlerait pas, des rituels qu'on maîtrise pas forcément. Mmh. Moi, j'avoue que certains titres, il faut vraiment avoir un appétit pour la musique de Swans. Si c'est le bon mot, je ne sais pas, mais pour vraiment atteindre l'épiphanie qui est celle que je pense Michael Gira essaye d'atteindre. Tout est très beau, tout est très, cette poésie apocalyptique, ce truc très solennel, processionnel, c'est magnifique, mais parfois, moi j'avoue, sur les titres plus longs, ça me laisse un peu en dehors.
Oui, et pour Olivier Lam, qui a qualifié cet album de classe.
Ben non, mais je pense que Michael Gira serait pas très heureux d'entendre parler de religion pour lui.
Mais je veux dire, c'est quand même, il est arrivé à un
point de sa carrière.
Quand on commence à parler de procession, on n'est pas loin.
Oui, non, mais il y a clairement des rituels à l'œuvre dans cette musique, mais c'est des rituels qui sont pas aliénants, il est pas là pour reprogrammer, il est plutôt là pour libérer des élus de l'esprit. Et par ailleurs, arrivé à ce niveau de leur carrière, contrairement si on écoute des disques des années 80, qui étaient avec notamment ceux qui faisaient avec sa compagne Jarbeau, qui ont une violence et d'un nihilisme, et qui même dans son écriture d'ailleurs, qui n'était une écriture, il a écrit des livres, Gérard, c'est quand même effectivement poésie apocalyptique, poésie porno, c'est d'une violence incroyable. Enfin, et là, il est quand même à un âge, il arrive à un âge plutôt digne, et il joue une musique qui est pleine de lumière aussi. Enfin, il y a beaucoup de morceaux assez lumineux. Moi, j'entends de plus vraiment un devenir blues de la musique de Michael Gira, même si le blues a toujours été là dans Swans. Mais là, c'est flagrant, y compris dans les thématiques. Il y a ce morceau, le deuxième morceau de l'album, qui est construit autour d'un riff assez typique de Swans, qui est en gros un riff de métal joué comme du folk. Qu'on pourrait résumer comme ça, qui s'appelle The Hanging Man, qui est une réponse à The Hanging Man, qui est un des piliers de la musique, traditionnelle anglo-saxonne, qui a été chanté par John Paul and Mary, qui a inspiré Gallows Paul à Led Zeppelin, et je pense qu'il est aujourd'hui, il converse avec ça, enfin très fort, converse avec quelque chose de tellurique, des racines très très profondes de la musique américaine, ou de la musique anglo-saxonne pour parler plus largement, et aussi avec quelque chose qui serait après le rock, enfin moi je après la propre musique de Swans, et je pense que il y a vraiment un renouvellement inattendu à ce moment de leur carrière, puisqu'effectivement, après la dissolution de la deuxième incarnation officielle de Swans, on pouvait imaginer qu'elle allait faire des disques sous sous son nom. D'ailleurs, ce qu'il fait, il en fait beaucoup, dans lequel d'ailleurs on trouve des versions un peu démo qu'il enregistre en solo de chansons qu'on retrouve dans les Disques de Swann. C'est le cas aussi pour des chansons de cet album-là. Mais il y a un renouvellement qui s'opère par un biais presque minimaliste. Enfin, c'est un peu paradoxal de dire ça, vu que c'est quand même la musique enregistrée dans des grands ensembles. Je voulais revenir aussi sur Nex, le trio australien. Je pense que qui sont les, pour moi, les deux morceaux avec les deux Nex sont les deux plus intéressants. Il y a donc The Nub et donc le morceau qui donne son titre à l'album, Living Winning. Voilà, ce trio australien, donc piano, clavier, contrebasse, batterie, qui existe depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, qui est un des groupes les plus obsessionnels, les plus singuliers, qui travaille à partir d'un minimalisme. On est au-delà du jazz, c'est pas non plus une musique extrêmement, c'est pas du tout une musique difficile d'accès, c'est une musique qui emmène, c'est une musique très répétitive de trance à minima, j'ai envie de dire, et je pense que ces disques-là fonctionnent sur le même système, c'est-à-dire que c'est des morceaux qui vous emportent, c'est des morceaux qui sont jamais atonaux, qui sont jamais d'une extrême violence, c'est des morceaux effectivement qui vous emmènent ailleurs. Mais je trouve pas que ce soit des morceaux qui embrigadent ou qui excluent, enfin en tout cas
non, dans le cas de l'album Kaline. C'était pas l'idée que ce soit embrigadé, j'étais vraiment sur la notion de rituel en fait, pas en religion, donc vous êtes avec moi ou contre moi. Je pense que c'est moi vraiment d'un point de vue très personnel, et je pense que il y a plein de gens comme moi qui ne connaissent pas forcément Swann ou voilà, qui justement peuvent rester en dehors, mais je pense que lui n'a, c'est évident que dans sa musique n'a aucune volonté, lui c'est l'élévation qu'il cherche pour lui-même, et évidemment on sent qu'il essaie de la transmettre aux autres. Ça, c'est évident, mais on sent cette passion quand même d'une musique ritualisée quand même.
Un dernier commentaire, Christophe Comte, sur ce disque de Swann.
Oui, c'est une religion païenne dans ce cas-là. Enfin, c'est vraiment un rituel païen. C'est un rituel païen, et on sent chez lui qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on disait. C'est faire jaillir quelque chose. La musique fait jaillir. Et c'est très étonnant, ce mouvement qu'il y a dans Swann, ce qui a chez très peu de musiciens, chez Coltrane, peut-être chez certains musiciens de jazz, où on sent on la sent physiquement, cette poussée. Et ça, c'est quand même assez étonnant qu'un musicien parvenu à son 15e album arrive encore à trouver cette puissance d'élévation qu'on ressent vraiment de manière très, très, très singulière et vraiment dans la chair, quoi.
C'est il y a quelque chose qui est comme arraché du sol. C'est pas seulement élevé, mais c'est aller enfoncer
chercher cérébrale, quelque chose. Swann, contrairement à ce que ça peut avoir l'air comme ça. Il y a quelque chose de très physique.
Très concret, très physique. En effet. Alors, à expérimenter aussi en concert, donc le disque Living Meaning.
Avec double boulecaisse.
Et Mute. Double boulecaisse à prévoir le 15 mai à la Poudrière, qui porte bien son nom, à Belfort. Et puis le 19 mai, ce sera au Trabendo à Paris pour aller écouter Swann en concert. C'est l'heure du coup de cœur d'Olivier Lam pour un nouvel album de Jim O'Rourke, dont je lui laisserai dire le titre après avoir écouté un extrait. Qu'est-ce qu'on entend et qu'on continue à entendre, Olivier Lam?
Alors, on entend un tout petit extrait d'une œuvre beaucoup plus longue que ce qu'on vient d'entendre, puisqu'elle dure plus de 4 heures.
C'est pour ça que c'est un extrait.
Voilà, c'est un extrait, mais pour donner un peu une idée, les gens qui connaissent bien l'œuvre de Jim O'Rourke savent qu'à beaucoup de moments de sa carrière, c'est un artiste américain qui a fait notamment du rock, de la pop, du rock expérimental, qui a produit énormément dans les années depuis la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 à peu près, mais qui n'a jamais cessé d'être un musicien de recherche. Notamment, il a publié dans les années 90 des pièces de musique électroacoustique, acousmatique, notamment sur un label qui s'appelle Metamkin, une série de courtes œuvres qui s'appelle Le cinéma pour l'oreille. Et là, il renoue depuis quelques années, depuis son déménagement à Tokyo, avec une série d'albums qu'il publie lui-même sur Bandcamp. On peut acheter, il conseille de les acheter dans les formats les plus élevés possibles, sur ce qui s'appelle Steam Room, qui est aussi son studio, dans lequel il enregistre aussi encore de la pop. Il a enregistré un disque il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Et là, il collabore avec un label bordelais, Sonorize, qui existe depuis les années 90 également, mais qui a recommencé à publier des disques depuis deux ans à peu près, et qui publie des coffrets assez dispendieux de d'artistes expérimentaux, moi, qui sont tous très importants à mes yeux, comme Kevin Drum, qui est un guitariste américain, ou Lionel Marchetti, compositeur français, et qui là a réussi à convaincre donc Jim Roux de publier cette pièce de 4h30. On ne sait pas s'il y en a plusieurs. En tout cas, c'est étalé sur 4 CD, et c'est une pure extase pour moi. On est dans un ailleurs musical total, puisque effectivement c'est impossible de déterminer si on est en train d'écouter de la musique faite avec de la guitare, avec des synthétiseurs, avec de l'ordinateur, avec des sons traités. On ne sait pas ce qui est quoi, et surtout on ne sait pas quelle forme ça a. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de changer, et on passe quasiment d'un ambiant qui serait presque enveloppant à des choses à dire assez menaçantes. Je pense que c'est vraiment une œuvre importante dans son travail, dont on sait, voilà, pour ceux qui la suivent, à quel point elle peut être précieuse. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que Jim Rourke, ayant la notoriété qu'il a chez les amateurs, je pense que c'est une œuvre qui sera écoutée par plus d'auditeurs qu'habituellement pour une œuvre de cette longueur et sur ce label, donc ce label bordelais qui s'appelle Sonoris. Et c'est une bonne chose pour les deux. Voilà, je pense que c'est libérateur à bien des égards, et c'est une œuvre intensément énigmatique. Mais évidemment, moi j'écoute beaucoup d'œuvres très longues actuellement, et je pense que ça répond à un moment de crise aussi chez beaucoup de mélomanes. Je m'arrête de parler.
Jim O'Rourke, l'album, les 4 CD plus exactement, s'intitule To Magnetize Money and Catch a Roving Eye chez Sonoris.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le premier album de Brooke Candy est arrivé. Ça fait quand même 7 ans que la folle le monde avec son rap LGBTQ+, sa volonté de, je cite, reprendre possession de la sexualité féminine pour l'exorciser des confins d'une culture qui a tenté de la supprimer. Fin de citation. Beaucoup de participation, featuring. Iggy Azalea, Charlie XCX, Boys Noize, Aquaria. On va écouter Boss Beach, où on entendra H. Nico, et choisir un extrait possiblement, je puisse possiblement dire ici, dans la traduction de Boris Pinault. Vois comme je danse, pleine aux as, belle à crever, je suis la DG, casse-toi, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, tu peux compter là-dessus. 3 coups et tu dégages. Je suis parti de rien, j'ai empoché livres et dollars, j'ai asservi tous ces garçonnets, je vais bien ouvrir ma gueule et faire grand bruit.
I'm a boss, bitch. I'm a boss, bitch. I steal a fuck boy, take him hostage. Breakfast back, making me his own sausage. I'm a boss, bitch. I'm a boss, bitch. And he's never gonna kiss me with my lip glosses. Find his cute face missing on the milk carton. Pay a ransom, price going up, Branson. See me dancing, my money looking hella handsome.
I'm the CEO, see you later. I don't need it. Spaghetti all in my bowl, best believe it. 3 strikes and you're out like Adidas. On the telephone, dial tone, hear him breathing.
Started from the ground up, boss bitch. Get my dollars in my pounds up, boss bitch. Dominating all these little boys. I'ma shout it, make the biggest noise. Started from the ground up, boss bitch. Get my dollars in my pounds up, boss bitch. Dominating all these little boys. I'ma shout it, make the biggest noise. Boss bitch. I'm a boss bitch. I'm a boss. And
in the crowd make a mosh pit. Stringing them along like a crossfit. If there's a line, I'ma sure as hell cross it. It's Britney, bitches, and I'm toxic. Stick with me, kids, I pull a profit. Dip with me, flip and do a drop kick. I flip the script, I'm in the cockpit.
I'm a CEO, see you later, I don't need it. Spaghetti all in my bowl, best believe it. Three strikes and you're out like Adidas. On the telephone, dial tone, you're breathing. Started from the ground up, boss bitch. Got my dollars in my pants.
Voilà pour cet extrait de Brooke Candy. C'est vrai, j'ai lu la traduction la plus du passage, disons, le plus
chaste.
Merci Christophe Comte. Allez, un premier commentaire, le vôtre cette fois sur cet album de Brooke Candy. Pascaline Potvin.
Du sucre qui grince sous les dents.
Olivier Lame.
La nouvelle, pardon, novelty music.
Bon, on traduira tout à l'heure. Christophe Comte, ce novelty, c'était un café à Montpellier où j'allais quand j'étais jeune, mais ça ne doit pas être la même chose. Christophe.
Bah, j'ai envie de citer Jacques Chirac, elle a des frelons dans la culotte, il avait dit à propos de Madonna, je crois.
Ah oui, donc il avait récupéré la dite culotte, exactement. J'espère qu'il n'y avait pas de frelons dedans.
Je crois qu'il l'avait redit pour Carla Bruni aussi.
C'est vrai. Bon. Bon, Pascaline Potvin, élevez le débat.
Je sais pas si je vais élever, si les frelons vont voler plus haut. Mais non, mais Brooke Candy, je pense qu'il faut rappeler un peu qui c'est. C'est quelqu'un, c'est une ancienne stripteaseuse. C'est une grande avocate de la cause, effectivement, vous l'avez dit, LGBT, queer, plus, féministe également. Dont le discours, son message, c'est chanter les vertus de la libération sexuelle, du sexe comme vecteur de libération féministe. Et donc cet album, comme vous l'avez dit, on l'attendait aussi depuis longtemps. Ouais. Elle a sorti plusieurs singles avec des vidéos toujours très entre cyberpunk, oui on va dire cyberpunk, manga, enfin une esthétique très forte généralement. Et elle devait faire un album avec Sia. La chanteuse Sia chez Sony qui a été trappée, elle dit que c'est parce qu'on l'a pas laissée assez libre de sa parole. Et effectivement, elle pousse beaucoup de curseurs à fond, et notamment celui de ses textes. Je sais pas si on entendait bien dans cet extrait-là, mais c'est vrai que c'est principalement Pussy Biatch, Pussy Biatch, Pussy Biatch. Pas que. Mais
Dick
tout ça n'est
aussi,
pas, et Dick aussi, mais tout ça n'est pas gratuit en fait. Je pense que c'est vraiment, je vais vous marteler les choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. J'ai parlé du sexe féminin jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, mais pour l'imposer. Et je pense aussi que c'est aussi une façon de se réapproprier le langage des rappeurs, qui eux aussi n'ont pas arrêté d'accumuler les poussies qui valent des dollars, les dollars qui valent du poussy et inversement. Elle se réapproprie ça, et quelque part aussi en répétant sans cesse ces mots, tout cet argot, tout ce langage très sexuel, elle le dédramatise aussi quelque part, et en ça c'est efficace. Au niveau musical, c'est une production, on est dans un registre pop futuriste, un peu trap, hip-hop, assez efficace. Je trouve que c'est globalement bien fait. Le producteur, c'est quelqu'un qui s'appelle Jesse St. John. Il y a toujours un motif dans chaque chanson qui accroche assez. Il y a des chansons, on a l'impression d'entendre des vieilles sonneries de téléphone ou des balles rebondissantes. C'est très efficace. Enfin, on a envie de danser là-dessus, ça marche bien. Mais je trouve que c'est assez discret parce que ce que ça met en valeur surtout, ce dont ça laisse la place à, c'est elle. Et tous ces featuring, c'est principalement des collaborations féminines, des artistes. Vous l'avez dit, certaines mainstream, Charli XCX, Iggy Azalea, d'autres plus confidentielles, plus underground, des rappeuses anglaises, des femmes trans issues de la télévision, des femmes issues de la télé-réalité aussi. Et tout ça est très inclusif. Et finalement, je trouve que dans un album qui veut être féministe et qui l'est, faire preuve d'autant de radicalité pour aboutir à quelque chose de très inclusif, bah c'est très dans l'air du temps et ça marche très bien. C'est un disque malin.
Novelty Music.
Oui,
traduction, Olivier Lame.
Ben, c'était dans les années 50, 60, 70, c'était des disques un peu gadgets, dans lesquels il y avait notamment des figures un peu hautes en couleur qui s'appropriaient les comment dire, la les choses en vogue du moment, ça allait le mambo jusque le rock'n'roll, et puis après ça a été très loin, le disco, etc. Et voilà, là on a affaire à un personnage effectivement en couleur, qui a une biographie assez intéressante. On l'a découverte comme une apparition, elle était moins tatouée à l'époque dans un clip de Grimes, et ensuite je crois qu'elle a été accessoiriste pour mannequin dans les vitrines de Hustler, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Bref, c'est assez drôle, sa page Wikipédia est énorme, contrairement à celle d'artistes autrement plus imposants. Et le disque pour moi n'a absolument aucun intérêt, parce que c'est vraiment une espèce de bouillie pop, trap, crunk, machin, qui est vraiment produit par des gens qui veulent faire du mainstream, mais qui ont pas vraiment envie d'innover. Donc en fait c'est totalement générique, et surtout c'est une rappeuse exécrable. Enfin elle est autant dans l'écriture que dans son flow, elle est vraiment catastrophique. Donc j'ai réécouté l'album de Cardi B sorti l'année dernière pour essayer de voir si j'étais pas de mauvaise humeur, mais non c'est vraiment elle est enfin effectivement on comprend tout ce qu'elle dit, mais elle dit rien en fait, à part enfiler des perles, et surtout le rapport au trash en fait, au porno, les manières s'appelle Rime, voilà, donc il y a un morceau sur l'analingus qui est pour dire quoi, pour dire rien, et même pas sur elle-même en fait, on n'apprendra pas sur elle-même, même si on trouverait pour une raison ou pour une autre, quand même on trouverait sa biographie intéressante, elle n'en parle pas, donc...
Christophe Comte, sur ses bouquins.
Alors, franchement, ça m'a pas non plus emballé tant que ça. Mais la production, je la trouve pas si mainstream que ça. C'est très minimaliste, finalement, assez convenu. Hein. On a entendu ça des milliers de fois. Mais je trouve qu'on s'y laisse prendre. Enfin, comme le morceau qu'on a entendu, ça, voilà, c'est assez
efficace.
Et puis bon, il n'y a pas tous les tics qu'on entend par ailleurs. C'est presque par moments assez décevant dans la manière dont c'est straight, quoi. Il y a un côté, enfin, musicalement. Après, dans le flow ou les textes et tout ça, c'est vrai que ça apporte pas grand chose. J'ai l'impression qu'on a quand même un peu fait le tour, là, maintenant. On a connu effectivement le rap hyper macho, la réponse ultra féministe. Et là, on est encore dans une sorte de surenchère. C'est très bien, probablement que c'est utile. Je sais pas si c'est beaucoup écouté, parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus, ça a pas breaké encore de manière très forte.
Que de mots anglais ce soir. Pardon,
ça n'a pas marché tous, de manière très.
Des blâmes.
Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, assez convenu, assez consensuel finalement dans son outrance, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'au sixième ou dixième chat dans le même morceau, je pense que je l'ai dit en français, du coup.
C'est beau, je vous remercie.
On se lasse, on a compris, et puis... Il y a un décorum autour. Je crois qu'elle était stripteaseuse, je crois qu'elle a fricoté avec effectivement Larry Flint et tout ça, mais bon, c'est du storytelling, tout ça. Très grosse.
Du storytelling.
Voilà, pardon. Mais ça c'est presque un mot français maintenant.
Pas encore, je sais pas. Je crois que l'Académie ne l'a pas encore accepté. D'accord. Allez, une dernière parole. À la Défense. Moi, je vous suis plutôt, parce que je suis pas.
Non, oui, après, je vais pas l'écouter.
Je me relève pas la nuit, mais je vais pas m'enlever la nuit. Ça me plaît, ce personnage-là aussi.
Après, je pense qu'effectivement, musicalement, c'est pas là où est le plus grand intérêt de Brocandi. Je pense que c'est une artiste, sans aller jusqu'à dire que c'est une artiste totale, mais il faut voir un peu tout ce qu'il y a autour, et notamment ses clips. Moi, il y a un des derniers clips qu'elle a sorti sur cet album, le clip de FMU pour Fuck Me Now, désolé c'est de l'anglais, mais là
Fuck
c'était de
up.
La chanson Fuck Me Up, pardon. Fatiguée.
Que vous traduiriez par
Non, je me permettrai pas là. Je pense que tout le monde comprendra. Mais en l'occurrence, c'est un clip assez soft où elle est avec un gang de bikeuses américaines avec qui elle est allée faire la fête un jour, un week-end, et on la voit, elle est pour une fois pas trop elle a un look presque soft. À un moment, elle est nue, mais la nuit, donc on voit pas grand-chose. Et elle est avec ses bikeuses qui sont toutes des femmes américaines d'un certain âge, certaines, pas sexy dans ce qu'on peut appeler sexy. Enfin, et c'est, là encore, c'est assez libérateur, je trouve. Donc faut regarder aussi ses clips, faut regarder autre chose. Et elle fait de mal, elle fait pas peut-être pas avancer de Schmilblick, pardon. Elle fait pas avancer grandement les choses, mais elle fait rien de mal.
Sexorcisme. Le titre de l'album de Brooklyn de chez Nux, elle sera en concert à la Boule Noire à Paris.
C'est décevant quand même, non, la Boule Noire.
Je sais pas, c'est thématique peut-être.
Ouais.
Ce sera le 27 février. Avant de conclure cette émission, nous avons la joie ce soir que Boris Pinault daigne faire le jeu de la dispute. Il va nous rappeler, cher Boris, la question du jeu d'hier et sa réponse du coup.
Alors la question était, avec quelles précédentes expositions le musée des arts décoratifs a-t-il amorcé l'exploration du rapport entre le corps et la mode? Et il s'agissait des expositions La mécanique des dessous et Tenue correcte exigée.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Reflet dans un œil d'homme, les 13 et 15 novembre à 20h30 au Théâtre du Montfort. Au Théâtre Montfort, la question:
quel est l'auteur du livre dont le spectacle Reflet dans un œil d'homme s'inspire librement?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige. Réalisation, Émilie Vanna. Demain, dispute art plastique avec Sally Bone, Sarah Hiller-Meyer et Christophe Rioux. Nous parlerons des expositions de Peter Odjar, David Wojnarowicz et Marion Semama, de L'œil et la nuit à l'Institut des cultures d'Islam et un focus sur figures d'artistes à la petite galerie du Louvre.